Nous aimons lire la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là aussi pour nous rappeler ce que Jésus a fait sur cette terre. Et il y a des récits aussi qui se trouvent dans l'Ancien Testament, toujours aussi pour nous instruire. Et je vous invite à un passage pour vous qui êtes des lecteurs habitués à lire la Bible que vous connaissez, de Rois 5. Pour d'autres, c'est peut-être tout nouveau. C'est un récit merveilleux que nous allons ensemble découvrir. J'essaierai donc de m'adapter au mieux pour les enfants, pour les adultes. Mais j'aime me rappeler que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur d'enfant. Donc, deux rois au verset chapitre 5. Je vais... dans un premier temps, lire que les deux premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme vaillant, était lépreux. La capitale de la Syrie, Damas, vit en ce jour un jour mémorable. Les armées victorieuses rentrent d'une bataille décisive qui a sauvé la nation du désastre. Les drapeaux, les étendards claquent dans le vent. Une foule énorme s'est rassemblée pour saluer les valeureux combattants. De toutes les poitrines fuse une clameur immense à la tête de son armée, monté sur un magnifique étalon blanc. Le général Naaman reçoit à lui tout seul une ovation formidable. Sa science militaire, son génie technique, sa bravoure lui ont permis de remporter une grande victoire. Il est superbe, regardez-le, drapé, dans ses vêtements qui trahissent sa qualité d'officier supérieur. Dans la foule qui se presse au passage du cortège, il y a des mendiants, des cordonniers, des porteurs d'eau, des pauvres gens qui le regardent passer avec dans leurs yeux une lueur d'envie et se disent: voilà cet homme qui a réussi dans la vie, ça au moins, c'est vivre. Si l'on regarde un petit peu plus près le général Naaman, on lui trouve les yeux un peu tirés, la figure pâle, les yeux humides. Son triomphe, dites, est-ce que son triomphe lui tourne-t-il la tête? Si on pouvait s'approcher de lui, tendre notre oreille, on pourrait l'entendre murmurer: j'aimerais être comme ce porteur d'eau. J'aimerais être comme ce mendiant. J'aime être comme ce simple cordonnier. Alors au moins, je vivrais vraiment. Mais que se passe-t-il? Dans la vie du général Naaman, il y avait un drame inconnu de toute la foule. Il était acclamé comme un héros national, mais une maladie répugnante et mortelle s'attachait à sa personne. La Bible nous dit qu'il était un personnage important, considéré, mais la tragédie de la lèpre s'était installée dans son foyer et sa femme était devenue pour lui quasi une étrangère. La Bible nous dit qu'il était vaillant, mais lépreux. La Bible nous dit qu'il était un soldat courageux, mais il avait été vaincu par la maladie. Dans la vie de Naaman, il y avait un mot de quatre lettres, M-A-I-S. Mais il était acclamé par la foule, mais lépreux. Il était fort, mais lépreux. Il était général de l'armée du roi de Syrie, mais lépreux. Il était tout cela, fort, vaillant, mais lépreux. Partout, partout mes amis, il y a toujours ce mot M-A-I-S, le « mais ». Et dans la Bible, la parole de Dieu, la lèpre est toujours une image du péché, qui est beaucoup plus terrible que la maladie de la lèpre, le péché. Et quand la Bible nous parle de péché, Dieu nous regarde dans les droits des yeux, droit dans nos yeux. Et comme pourrait dire le tragédien Molière, c'est à vous que s'adresse ce discours. C'est à vous que s'adresse ce discours. Il y a un prédicateur qui, après une prédication, était à côté de la porte et une chrétienne, une dame, a serré la main du prédicateur en disant « Monsieur, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. C'était tout ce qu'il fallait pour ma belle-fille. » Quelques instants plus tard, c'est la belle-fille qui passe devant le prédicateur, lui serre la main. « Oh, merci, pasteur. Combien ma belle-mère a dû en prendre pour son grade. » En fait, chacune de ces deux personnes ont passé complètement à côté de la prédication de l'Évangile. Oui, c'est à toi, pas à ton voisin, que s'adresse le message. Mais revenons à notre général Naaman. Un jour, alors qu'il se regardait dans son miroir d'airain poli comme à cette époque, il a découvert sur son corps une petite tache blanche qui n'était pas là la veille. La semaine suivante, elle était encore là. Et la semaine d'après aussi. Et elle résistait à tous les efforts pour la faire disparaître. Chaque fois qu'il se regardait dans ce miroir d'airain poli, il voyait la tache blanche qui grandissait. Il est allé consulter tous les meilleurs médecins du pays. Il avait de l'argent, il pouvait voir les meilleurs médecins. Et le verdict était implacable. Naaman, tu es lépreux. Et tous les jours, son miroir lui redisait qu'il était lépreux. Alors, quelle était la réaction de Naaman? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais je suppose très bien qu'il a dû prendre le miroir et l'a jeté, casser le miroir, ne voulant plus voir cette tache blanche. Allez, il casse le miroir. La Bible nous dit que la parole de Dieu est aussi un miroir dans lequel nous nous voyons. Et la Bible, à ce sujet-là, ne discute pas. Ce n'est pas un miroir déformant. Ce n'est pas un miroir flatteur. C'est un miroir qui nous montre tel que nous sommes. Et la Bible nous révèle que nous sommes tous lépreux spirituellement. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous violé la loi. Tous, sans exception. Alors devant ce miroir divin, qu'est la Bible, la réaction de certains est de prendre la Bible, de la refermer et de la jeter. Est-ce que cela va changer quelque chose de fermer la Bible, de la mettre sur une étagère? Non, cela ne change rien. Le fait de casser de casser la Bible, de la ranger, cela ne sert à rien. Comme cela ne sert à rien de Naaman d'avoir cassé son miroir. Il était toujours lépreux. Et si tu refermes ta Bible pour ne plus la lire, cela ne changera rien du tout. Tu resteras pécheur. Et de prendre la porte de l'église en claquant la porte, cela ne changera rien pour le salut de ton âme. Tu resteras pécheur. Vous pouvez déclarer que le mal sera transformé en bien. Cela ne change rien à la situation. Ce que Dieu dit, la chose demeure. Mais si Dieu prend tellement de la peine à nous montrer ce qui ne va pas dans ta vie, c'est qu'il va aussi prendre la peine pour te montrer la solution. Je répète, si Dieu prend de la peine pour te montrer ce qui ne va pas dans ta vie, il va aussi prendre la peine de te montrer quelle est la solution. Le plan de Dieu, ce n'est pas de nous faire du mal. Le plan de Dieu, c'est de nous sauver, de nous transformer comme nous l'avons entendu par ces trois personnes qui se sont engagées dans les eaux du baptême. Jésus transforme, Jésus pardonne, Jésus guérit. C'est pourquoi il nous faut chacun, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, à l'ouvrir, à l'étudier, jour après jour. La deuxième réaction de Naaman était de cacher sa lèpre. Vers le XIVe siècle, une belle reine de France a lancé la mode des pendentifs, faits d'une chaînette et d'un joyau au milieu du front. C'était la mode. Ce qu'on ne savait pas, c'est que derrière le médaillon, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une verrue. Cette pierre était là pour cacher la verrue. On voyait le diamant et on devinait ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, les hommes font tout pour cacher leurs péchés. Ils dépensent des fortunes et beaucoup d'énergie pour fabriquer des façades. Ils vont même jusqu'à promulguer des lois pour justifier, cacher leurs péchés. Derrière ces façades, derrière ces lois humaines, ces lois iniques, nous savons ce qu'il y a, la verrue du péché. Ah non, Naaman était lépreux, mais on ne le saura pas. Et nous aussi, nous sommes pécheurs, mais on ne le saura pas. Mais dans le fond, à quoi Naaman est-il arrivé, sinon à retarder le jour où dans tout l'empire syrien, la chose a été connue, Naaman était lépreux. Un beau jour, la lèpre a éclaté à la vue de tous et il n'y a pas pu la cacher davantage. Et la Bible nous dit que nous ne pourrons pas toujours jouer à cache-cache avec Dieu. On ne pourra pas. Un temps peut-être, mais pas toujours. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Et tout est nu et découvert aux yeux de qui un jour, nous devrons rendre compte. Naaman avait un besoin. Ce n'était pas de cacher sa lèpre, c'était d'en être guéri. On imagine facilement dans la maison de Naaman, eh bien, ces grands plans d'eau, ces fontaines, des jardiniers pour l'entretien de cette propriété. Parmi ses servantes, il y avait une petite fille. Une jeune fille qui avait été arrachée à sa famille du pays d'Israël. Elle connaît le Dieu vivant car ses parents l'avaient instruit dans le Dieu d'Israël. Et là, elle est en pays étranger, loin de toute sa famille. Néanmoins, elle rend témoignage de sa foi. Un jour, au cours de son service, elle aperçoit quelques taches sur le visage de Naaman. Qu'est-ce que ces taches blanches ? Se dit-elle. Et jour après jour, elle s'aperçoit que ses tâches grandissent, se multiplient. Elle réalise alors que son maître est atteint de la terrible maladie de la lèpre. Et son cœur est attristé. Mais quoi faire ? Elle n'est qu'une petite fille. De plus, elle est une servante. Pire, c'est une esclave. Quoi faire ? J'imagine qu'elle prie. « Oh, Dieu d'Israël !» Permet que un jour je puisse parler à mon maître. Elle trouve l'occasion. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 5, verset 3. Elle trouve l'occasion de dire à la femme de Naaman, « Oh, si mon maître, mon Seigneur, était auprès du prophète Élisée qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de la lèpre. » Et nous voyons qu'aussitôt, Naaman, au verset 4 de notre récit, se rend auprès du roi en lui disant « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Bien, nous voyons avec étonnement que tout compte fait, Naaman, le grand général Naaman, n'est quand même pas si têtu. Hein. Non, il a quand même prêté attention à la petite fille. Pas trop orgueilleux. Prête attention au témoignage de cette petite fille. Petite fille étrangère. Naaman a bien raison et montre de la sagesse d'écouter cette petite fille. Mais ensuite, il va se conduire, et je vais vous l'expliquer, quelque peu en insensé, en ne suivant pas le conseil pleinement de la petite fille d'aller auprès du prophète Élisée. Non, il est sur le chemin du salut, mais il va faire des erreurs. Premièrement, nous le voyons au verset 5, qu'il prend avec lui une grosse somme d'argent. Il pense acheter sa guérison. Il va prendre avec lui 10 talents d'argent et 6000 sicles d'or, soit 500 kilos d'argent et 100 kilos d'or. Big. Il dit, avec ça, je vais faire fortement impression, je vais pouvoir acheter ma guérison. Mais tout l'argent du monde ne pourrait pas laver notre cœur du péché. Avec de l'argent, on peut acheter une belle moto, une belle voiture, une belle maison, oui. Mais avec de l'argent, ce n'est pas possible. D'ôter le péché de notre cœur, on ne peut pas acheter le salut, c'est quelque chose de gratuit. La Bible est claire sur ce sujet, car c'est par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas en allumant des bougies, ce n'est pas en faisant des chapelets, en faisant telle ou telle chose que nous sommes sauvés. C'est par grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous fait un cadeau parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est un cadeau de Dieu. Il ne s'agit pas de faire, il ne s'agit pas d'acheter, mais tout simplement de recevoir le cadeau de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La deuxième erreur a été de se tromper de lieu pour être guéri. Nous voyons toujours au verset 6 de Roi 5 qu'il s'adresse tout d'abord au roi d'Israël au lieu d'aller voir le prophète Élisée. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui frappent à la mauvaise porte. Nous l'avons entendu, qui frappent à la porte des religions. Toutes ces religions qui se multiplient, ils se trompent de porte. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 14, 6, celui qui me suit aura la vie. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne rentre pas avec Jésus-Christ dans une secte, parce qu'il dit, il entrera et... il sortira la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Quand on rentre dans la vie avec Jésus-Christ, quand on s'engage avec lui, on ne rentre pas dans une secte. On n'est pas embrigadé. Non, Jésus dit, tu entreras dans la bergerie. Dans la bergerie, je vais te guérir, je vais te restaurer, te pardonner et fortifier de tout cela. Tu pourras sortir dehors. Pour resplendir, être resplendissant de ma vie, de ma joie. Et comme on l'a entendu, même les autres personnes dans la ville de Gap savent maintenant que Jeannette est transformée. Voilà, c'est ça le salut. En Jésus-Christ, nous sommes transformés. Nous devenons la lumière parce que nous marchons à côté de Jésus qui est la lumière. Nous resplendissons de sa lumière. Il n'existe qu'une seule porte. Alors ne vous trompez pas de lieu. Il n'y a qu'une seule porte pour être introduit dans la présence de Dieu, Jésus. Quelqu'un va peut-être me dire, mais vous êtes un petit peu dur avec Naaman. N'était-il pas sincère? Oui, il était sincère. Mais attention, ne prenons pas la sincérité pour la vérité. La Bible ne nous dit pas que la sincérité sauve. La sincérité ne sauve pas. Il y a quelques années, cette maman a servi à toute sa famille des champignons qui, de bonne foi, elle croyait bon, mais elle a offert à ses enfants. Mais sa sincérité a-t-elle sauvé ses enfants du poison qui était dans les champignons? Non. Non, la sincérité ne sauve pas. Seule la vérité sauve. Comme je le répète, comme le verset qui est indiqué en haut, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne vous trompez pas de chemin, ne vous trompez pas de porte. Et la troisième erreur a été qu'il a voulu être guéri à sa manière, à lui. Dans sa pensée, il s'était dit, et attention mes amis, faites attention à ce que vous vous dites. Il s'était dit, oh là là, voilà, je vais me présenter devant le prophète. Quand il me verra dans mon char, tiré par mes magnifiques chevaux, avec aussi tous ces kilos d'argent et d'or, que fera-t-il le prophète? Il va sortir de la maison, il va courir vers moi, il va agiter ma main au-dessus de mes plaies, 2-3 mouvements, guéri. Ah, il s'était dit cela. Méfions-nous ce que l'on pense. de ce que l'on dit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on pense, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Et pour Naaman, cela ne s'est pas passé comme il le pensait. Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti. C'était son serviteur, Géasi, qui sort de la maison pour aller vers Élisée et va lui dire, va, plonge-toi 7 fois dans le fleuve du Jourdain, puis tu seras guéri. Et retourne dans la maison, rejoindre Élisée. Naaman, lui, reste assis, là, ou en tout cas sans voix, surpris, puis fâché. Il n'est pas content, hein. Il n'est pas content du tout. Il se retourne pour rejoindre son pays. Comment me parler, moi, de la sorte, le général Naaman? Bon, de toute façon, dites-moi, de toute façon, être général, il n'avait pas besoin d'être guéri. C'est pas une maladie d'être général. Non, lui, ce qu'il avait besoin, c'était d'être guéri de sa maladie, la lèpre. Si Dieu nous sauve, c'est parce que nous sommes aussi pécheurs, perdus. Il faut le reconnaître devant tous les hommes. Alors que faut-il faire pour être sauvé? La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Trop simple. Trop simple, diront certains. Il suffit de croire pour être sauvé. Oui, c'est la Bible qui le dit. Ah, ce n'est pas crédible. Oh non, c'est trop simple. Il va falloir quand même rajouter quelque chose quand même. C'est ce que Naaman a-tu pensé, aller se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain pour être guéri? Non, non. C'est beaucoup trop simple. Naaman, le grand général Naaman, ne peut pas croire cela. Il ne peut pas admettre que la grandeur de sa guérison était simplement lié au fait de se plonger simplement 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Heureusement, car pour lui, des simples serviteurs sont là et s'approchent de lui, dont particulièrement un. Il bégaye un petit peu. Général, je vous prie de m'excuser, mais si, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, répond Naaman. Naaman, si le prophète vous avait demandé de faire 7 kilomètres à cloche-pied, là, au bord du fleuve, vous l'aurez fait? Bien sûr que je l'aurais fait, répond Naaman. Alors, il bégaye, hein. Il demande le général Naaman. Si le prophète vous avait dit de faire 10 kilomètres avec de la mousse au chocolat dans vos chaussures, vous l'aurez fait? Bien sûr, répond Naaman, je l'aurais fait. Si le prophète vous avait dit, eh bien, de faire de donner vos lingots d'or, vous l'aurez fait? Bien sûr que je l'aurais fait. Alors Naaman, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si le prophète vous avait demandé quelque chose de difficile, vous l'aurez fait. Voilà qui vous demande quelque chose de facile et vous ne le faites. Alors là, le grand général Naaman reçoit de la part de son serviteur une magistrale leçon de logique. En effet, si le prophète lui avait demandé de faire quelque chose de difficile, il l'aurait fait. Voilà qu'il lui demande quelque chose de facile et ne le fait pas. Peut-être entends-tu cette voix dans le fond de ton cœur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu ne le fais pas. Trop simple, tu te dis. Alors Naaman regarde ses plaies et comprend que s'il veut être guéri de sa lèpre, il doit simplement être obéissant. Tout simplement obéissant. Mais je suis convaincu que la suite n'a pas été sans résistance. Je connais le cœur des hommes, parce que, dites-moi, je connais mon propre cœur. Alors, à sa place, à Naaman, Moi, je me serais dit, pourquoi cette fois? Allez, trois fois, je veux bien, mais pas sept. Bon, d'accord, allez, quatre. Ça va pour quatre, hein, mais pas sept. Bon, allez, six. D'accord pour six, hein, mais pas sept. Pourquoi sept? Pourquoi sept? Je vous le demande. Tout simplement parce que Dieu avait dit sept. Dieu n'a pas dit quatre, il n'a pas dit cinq, il n'a pas dit six, il n'a pas dit huit. Dieu a dit sept. C'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu dit, Dieu parle, et la foi, c'est de croire la parole de Dieu qui avait dit sept fois. Au-delà de ce chiffre 7, vous le savez, pour vous les chrétiens, que cela représente aussi la perfection. Ah, moi, ouais, je trouve que nous pouvons aussi trouver une autre solution, une autre réponse à cela. Il avait dit 7, c'était pour qu'il se mouille. Ah, oh, vous n'êtes pas sérieux, pasteur Jean-Jacques. Non, mais je suis très sérieux. C'était pour qu'il se mouille. On raconte l'histoire d'un homme qui était sur le bord d'une rivière en train de pêcher. Hein, et il est tombé dans l'eau. Il est ressorti si rapidement de l'eau que son paquet de Kleenex n'était même pas trempé. Il ne s'était pas mouillé. C'est là une image de ce que Jésus nous dit qu'il aimerait que nous puissions croire, nous engager. La foi qui sauve, ce n'est pas une simple croyance intellectuelle en Jésus. Non! Il ne suffit pas de dire simplement « je crois en Jésus ». Il y a une expression contemporaine que j'aime beaucoup de quelqu'un qui s'engage, comme vous l'avez fait, et qui prend des risques, c'est celui qui se mouille. Et oui, se convertir à Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est se mouiller pour lui. Alors, en présence de ses serviteurs et des nombreux badauds rassemblés pour l'occasion, ce grand homme doit s'abaisser à descendre dans les eaux du Jourdain pour se mouiller et pour plonger non seulement une fois, mais cette fois. Alors pouvez-vous imaginer les regards? J'aurais voulu qu'il y ait la TF1 qui soit là pour filmer. Tout à l'heure, il y avait une caméra. J'aurais voulu être là. Les télévisions qui soient là et tous les projecteurs braqués sur Naaman. Il plonge une fois. Il ressort tout de suite. Et Dieu, on ne sait jamais. Hein. Mais la peau est toujours attachée. La lèpre est toujours attachée à sa peau. Deux fois. Il se lève trois fois. Il ressort quatre fois. Mais Dieu n'avait pas dit quatre fois, n'avait pas dit cinq fois, n'avait pas dit six fois. Il avait dit sept fois. Et ce n'est pas simplement qu'au bout de quatre fois que... Ah, un petit bouton de moins. Au cinquième plongeon, ah tiens encore, un petit bouton de moins. Au sixième, ah ça y est, le braille, non. Jusqu'au sixième plongeon, la lèpre était toujours attachée à sa peau. Et c'est seulement lorsqu'il ressort de son septième plongeon que la Bible nous dit que sa peau était redevenue comme celle d'un petit enfant. Ah. Moi, je pense, mes amis, que lorsqu'il est sorti de son septième plongeon, qu'il s'est regardé, qu'il n'avait plus aucune tache de lèpre sur sa peau, il a dû pousser un cri de joie, un ouf de soulagement. La guérison, le pardon, la purification de Naaman sera-t-elle ton histoire aujourd'hui? Aujourd'hui, fête des mamans. À 16h30. Est-ce que son histoire va devenir la tienne? Dieu seul te connaît. Te connaît. Il connaît la misère de ta vie. Il connaît ton anxiété. Il connaît la lèpre qui te ronge, qui est là au fond de ton cœur, peut-être invisible à nos yeux, mais Dieu le voit. Cesse de cacher ces choses-là. Ce péché qui trouble ta conscience, qui rend ton visage tellement triste, qui t'empêche peut-être de dormir, de faire des nuits blanches, ce péché caché aux hommes, mais pas caché au Dieu, à Dieu, ce péché que tu caches à tes amis, comme la petite servante de Naaman, j'aimerais te dire, ah, si tu connaissais Jésus, si tu connaissais Jésus, si tu connaissais mon ami, celui qui aussi a sauvé ces trois personnes qui se sont engagées, mais qui a sauvé ma vie et de nombreuses personnes d'ici. Ah, si tu connaissais Jésus, mon sauveur, et si tu acceptais d'être purifié par le sang qu'il a versé à la croix pour que tu sois pardonné, pour que ta vie soit transformée, veux-tu croire tout simplement en Jésus-Christ? Si tu crois, pas d'une façon intellectuelle, mais si tu crois de tout ton cœur, Jésus dit, tu seras sauvé. Croire que Jésus est mort sur la croix pour toi, qu'il a pris sur lui tes péchés et te plonger dans les promesses. Dans les promesses de la parole de Dieu. Et ces promesses qui te disent, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mon enfant aussi, toi qui es jeune, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les adolescents, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Personne du troisième âge, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as payé le prix à la croix, afin que chacun de nous, nous puissions trouver ce moyen en toi d'être sauvés. Tu es le chemin, nous l'avons dit, tu es la vérité, tu es la vie. Nul ne peut aller au Père que par toi. Alors je te prie pour mes bien-aimés qui se trouvent ici, peut-être ceux qui ne te connaissent pas et qui, dans leur cœur, tu leur parles, tu les attires vers toi et tu leur parles avec tendresse. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus, mets toute ta confiance en Jésus et tu verras ta vie transformée. Nous fermons nos yeux. Nous faisons silence et nous laissons aussi Dieu te parler. Si tu entends sa voix qui te dit, accepte aujourd'hui, obéis, sois simplement obéissant. Ne cherche pas tant à comprendre, Dieu te donne une intelligence, certes, mais ne cherche pas tant à comprendre. Comprends que mon salut est quelque chose de simple et que pour être sauvé, il faut avoir cette foi simple, comme celle d'un enfant. Crois en moi et j'ai cette promesse pour toi. Tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés et je vais transformer ta vie. C'est mon engagement que je fais pour toi, à la condition que tu puisses tout simplement croire en moi. S'il y a des personnes, nous n'allons pas faire de forcing, et là aussi il n'y a pas de geste magique. Ce n'est pas le fait de lever sa main, ça aurait pu être un autre geste. Mais c'est pour peut-être montrer à Dieu, Dieu, par ce simple geste de la main que je lève, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Je veux tout simplement te dire oui, je crois en toi. Et je lève ma main pour te le dire. S'il y a des personnes, des enfants qui veulent le faire, des adultes, que vous vous sentiez libre, il n'y aura aucun forcing. Si tu veux recevoir Jésus maintenant, tu peux lever ta main pour manifester le fait de recevoir Jésus. Et je répète, il n'y a aucun forcing. Ensuite, on peut rabaisser sa main. Merci. C'est le Seigneur qui voit, c'est le principal. Alléluia. Jésus, nous voulons te remercier parce que nous voulons confesser que celui qui se donne à toi, celui qui te demande pardon, eh bien, tu guéris, tu sauves, tu pardonnes. Merci, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit. Amen.